15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Bien-être et Santé. Pendant une heure, nous allons vous informer, partager des conseils, échanger avec notre invité. Vivre un cancer pendant les vacances, c'est notre dossier du jour. Quand on est touché par la maladie, cette pause estivale prend un goût particulier. Alors que l'on reste chez soi ou que l'on se déplace, pourquoi est-il important de se changer les idées, d'avoir de nouveaux projets, de faire du sport? Pour en parler, nous sommes en studio avec le docteur Thierry Bouillet, oncologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et nous appellerons aussi Céline Lisraou, fondatrice de l'association Rose. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, le docteur Damien Mascret est également avec nous en studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On rappelle que vous êtes médecin et journaliste au Figaro. Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et vous nous donnerez aussi quelques conseils pratiques pour l'été.
Bah oui, côté sexo, on va se demander en fin d'émission comment gérer les fameux troubles de l'érection. Et dans les petits bobos de l'été, on va parler des intoxications alimentaires.
À 15h40, nous retrouverons les conseils pour améliorer nos habitudes et notre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec un coach sportif pour 3 idées qui permettent d'entretenir la souplesse et la silhouette cet été. Voilà pour le programme, c'est parti pour 100 rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit, 100 rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour l'été. Aujourd'hui, Damien Mascret, quelques conseils pour les vacanciers qui partent en bord de mer parce que l'été, c'est aussi parfois les intoxications alimentaires.
Eh oui, bon, ça peut arriver tout au long de l'année, hein, les intoxications alimentaires. Mais c'est vrai qu'il y a davantage de risques de, notamment, rupture de la chaîne du froid, comme on dit en été. Mmh. Alors, il faut, si possible, avoir un sac isotherme, hein, pour faire vos courses, car le transport en voiture est évidemment une période délicate. Essayez d'ailleurs de laisser votre voiture à l'ombre, si possible. Et puis, même quand vous aurez mis des denrées alimentaires au frigo, essayez de les consommer rapidement, hein. Là aussi, c'est important. Et puis, le dernier piège par rapport à la chaîne du froid, c'est méfiez-vous des restes, hein. On les remet rapidement au frigo, on ne tarde pas à les consommer ou alors carrément on les jette. Et bien sûr, ça c'est spécial dédicace pour ma maman, on ne recongèle pas ce qui a été décongelé.
Des conseils pour la préparation?
Alors oui, il faut bien se laver les mains, évidemment, à l'eau savonneuse avant de préparer un repas. Si vous êtes malade, y compris en période de Covid, on le rappelle, vous passez votre tour, c'est quelqu'un d'autre qui prépare le repas. Ayez, si possible, c'est important, une planche à découper à part pour les viandes et les poissons crus et une autre pour les légumes propres et les produits cuits. Une fois que les aliments d'ailleurs sont cuits, n'utilisez pas les plats ou les ustensiles que vous aviez utilisés pour transporter ou manipuler les aliments crus. Sinon, on va risquer de les contaminer. Attention aussi à la viande hachée qui n'a pas fait un séjour au congélateur parce qu'elle doit toujours être cuite à cœur, notamment pour les enfants, les femmes enceintes ou les immunodéprimés. Je rappelle d'ailleurs aux femmes enceintes que la consommation de viande crue ou de produits au lait cru est fortement déconseillée.
Et elles doivent éviter aussi les coquillages, hein, je crois.
Oui, il faut éviter les coquillages parce que ça peut être la source de listériose. Mmh. Alors la listériose, c'est la listeria, plutôt la bactérie responsable, elle est très répandue, hein, dans l'environnement. On en trouve dans les sols, dans les rivières. Et évidemment dans le tube digestif, que ce soit des bovins, des ovins, des caprins, des poulets. Alors, c'est habituellement responsable de troubles digestifs mineurs. Hein, mais quand même, chez les femmes enceintes notamment, ou les personnes fragiles, personnes âgées, souffrant de cancer, de maladies du sang ou du foie, ça peut être très grave. Donc là aussi, il faut se méfier. On se lave bien les mains après avoir manipulé des produits crus. On lave bien les légumes et les herbes aromatiques avant de les mélanger ou de les cuisiner. Et puis on évite, même si c'est tentant à l'apéro, le tarama, les poissons fumés, les coquillages crus ou les produits carnés crus type charcuterie.
En règle générale, il faut toujours être prudent avec les aliments crus ou peu cuits, c'est ça?
Oui, parce que souvent on se méfie des fruits de mer, hein, des œufs crus ou de la mayonnaise. Mais on est un peu trop confiant avec les végétaux crus, avec les dérivés ou fromages au lait cru, ou alors les viandes aussi qui ne sont pas suffisamment cuites. Et on a tort. Hein. Alors c'est par exemple dans des œufs, de la volaille ou des produits laitiers consommés crus ou peu cuits, qu'on va trouver les salmonella, responsables de la salmonellose. Alors là, non seulement on a mal au ventre avec des vomissements, de la fièvre, de la diarrhée dans les 12 à 36 heures qui suivent le repas, hein, c'est la période d'incubation, mais en plus, il y a même un risque de septicémie chez des personnes fragiles. Ouais. Heureusement, pour la plupart des gens, ça va passer en 2 ou 3 jours. Attention quand même, ne pas vous déshydrater pendant que vous avez la diarrhée.
Donc il y a quand même un décalage de 12 à 36 heures entre l'ingestion et les symptômes.
Oui, exactement. Alors
c'est
parfois,
long.
Oui, c'est long, mais parfois ça peut se manifester. Alors c'est pas forcément les salmonelles, ça peut être quelques heures après les repas. Si vous avez une toxi-infection avec un staphylocoque doré, par exemple, eh bien vous aurez à peu près les mêmes symptômes que la salmonellose, mais vous n'aurez pas la fièvre. Mais là, ça va se déclencher entre 2 et 4 heures après le repas. Hein. En fait, c'est les personnes qui préparent le repas qui ont contaminé les aliments. Bah oui, soit parce qu'elles avaient une plaie infectée, par exemple à la main, soit parce que, tout simplement, elles étaient porteuses saines du microbe dans leur rhinopharynx. Hein. Donc ça, ça peut arriver avec les produits laitiers. Je pense aussi au fromage, aux crèmes glacées en été, évidemment. Donc là, ça commence très brutalement, 2 à 4 heures après le repas, je l'ai dit. Et heureusement, ça passe relativement vite. Alors, il y a plein de germes qui peuvent provoquer des toxications alimentaires. Je ne vais pas tous les faire. Mais dans le doute, évidemment, si vous êtes une personne fragile, il faut consulter.
Alors, on peut aussi faire des allergies alimentaires. On a une question de Barbara à ce sujet.
Alors moi, je me suis toujours posé une question. Comment on peut repérer une allergie alimentaire? Parce que je sais qu'il y a des allergies cutanées, mais est-ce qu'on peut avoir autre chose?
Les allergies, grande question, allergies alimentaires. C'est vrai que l'été, c'est parfois l'occasion de se découvrir allergique aux coquillages ou aux crustacés, par exemple. Alors effectivement, la vraie réaction allergique, elle ne va pas se manifester seulement par un urticaire. Il y aura d'autres symptômes, notamment des symptômes digestifs. Par exemple, mal au ventre, diarrhée, vomissement. On peut aussi avoir des signes respiratoires, une rhinite, une laryngite, une toux, un essoufflement. Évidemment, ce qu'on craint, c'est le choc anaphylactique, ça s'appelle. C'est d'ailleurs pour cela que les allergiques connus, par exemple à l'arachide, ont toujours avec eux, ou doivent toujours avoir en tout cas leur kit d'auto-injection d'adrénaline ou un stylo auto-injecteur en attendant l'arrivée du SAMU.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré aux vacances de ceux qui font face au cancer. Comment se changer les idées et se faire du bien malgré la maladie? On en parle avec notre invité dans un instant.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons parler de ce moment particulier de l'été et des vacances quand on doit faire face au cancer. Bonjour docteur Thierry Bouillet.
Bonjour Madame Le Gall, bonjour.
Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes oncologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors on va juste commencer par quelques chiffres. En France, un homme sur trois et une femme sur quatre rencontreront le cancer au cours de leur vie. Il y a 380 000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés chaque année en France. Et donc ça fait autant de patients, de familles pour qui l'été et le temps des vacances n'aura pas la même saveur cette année. Selon une étude menée par l'Institut Curie, il y a un tiers des patients touchés par le cancer qui annulent leurs vacances, un autre tiers qui les modifie. Est-ce que vous êtes déjà surpris par ces chiffres, Thierry Bouillet?
Non, ils correspondent à ça, à la réalité. Le cancer, c'est un drame dans une vie familiale et dans une vie personnelle, et ça modifie toutes nos habitudes. Et justement, le thème, je trouve, de votre émission, c'est de désangoisser les gens face à leurs vacances et de leur permettre justement de trouver ce moment de bonheur et de plaisir.
D'ailleurs, je crois que vous dites, vous, à vos patients, il faut avoir des projets, il faut avoir envie de sortir, de bouger.
La guerre contre la mort ne peut se faire que si on trouve un bonheur dans la vie.
C'est une belle philosophie. Quand vous sentez que les patients sont réticents à faire des projets de vacances ou même à sortir, se promener à côté de chez eux, qu'est-ce que vous leur dites?
Qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Qu'il ne faut pas qu'ils cherchent à avoir les vacances qu'ils ont eues d'habitude, qu'ils adaptent les vacances, qu'ils adaptent le faisable à leur situation nouvelle, mais qu'il faut qu'ils le fassent. Il faut vraiment juste réfléchir, à planifier, anticiper par rapport à une situation clinique qui est nouvelle, mais quand même accepter que cette situation clinique puisse être dépassée pour prendre un peu de bonheur en vacances avec sa famille et ne pas imposer une double peine. Je suis malade, je ne suis pas en vacances, et une triple peine avec ma famille.
Damien Mascret.
Est-ce qu'on peut, ou est-ce que ce n'est pas le moment de se reposer, vous allez me dire, c'est peut-être toujours le moment de se reposer sur ses proches, justement, pour qu'ils prennent un petit peu en charge l'organisation des vacances?
Sur place, si vous voulez, il faut que le proche accepte trois choses. On ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le parfait. On va faire un moment festif, un moment sur lequel il y a des événements exceptionnels qui apparaissent par rapport aux années précédentes. On va refaire pas forcément les mêmes, mais on va créer un moment exceptionnel. Il faut qu'il y ait un proche qui soit capable de prendre en charge la période de repos. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être active comme elle était avant. Donc il faut que le proche accepte cette nouvelle moment de vie sociale, vie familiale, vie sociale, mais aussi repos.
Oui, parce que c'est souvent un gros problème de cette invisibilité de la perte d'énergie. C'est-à-dire qu'on est fatigué, mais ça ne se voit pas forcément. Parfois même, on veut le masquer ou le cacher. Pourtant, on a quand même moins de ressources pour commencer sa journée en termes d'énergie.
Tout à fait. Et surtout, c'est une fatigue qui est effroyable parce qu'elle arrive à n'importe quel moment, n'importe comment, et elle n'est pas prévisible. Donc il faut que le patient sache qu'il va être fatigué un moment, qu'il n'ait pas de honte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se reprocher, je suis incapable de le faire. Il faut que les proches acceptent cette situation et qu'il y ait une sorte de stratégie d'évitement pour pas que la fatigue soit vécue comme une déchéance, mais comme une acceptation d'une situation de plaisir. Je vais me reposer.
À quelles conditions les malades peuvent-ils se déplacer, voyager? Alors la question se pose d'autant plus cette année avec la crise sanitaire. À quoi faut-il faire attention?
Il faut faire attention à ses capacités physiques. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir un véritable échange avec le médecin généraliste, qui connaît parfaitement toutes les autres pathologies qu'a le patient, et le cancérologue et son équipe, avec la question, est-ce que je peux me promener? Est-ce que je peux faire tel voyage selon les critères de la durée du voyage, la fatigabilité du voyage, le lieu d'arrivée? Est-ce que c'est un pays avec des risques infectieux ou pas? Quels ont été mes traitements récents? Est-ce que j'ai été opéré du ventre, opéré du thorax? Est-ce que j'ai une pathologie cérébrale? Toutes choses qui peuvent me gêner. Et surtout, prévoir un point de chute à l'arrivée. S'il m'arrive quelque chose, j'ai les coordonnées du service de cancérologie et
du lieu de vacances.
Du lieu de vacances où je peux être, je dirais, en sauvegarde si jamais quelque chose se produit de façon anormale.
Et ça, ça vaut pour la France et pour l'étranger?
Ça vaut pour la France et l'étranger, avec juste la limite des pays étrangers qui sont actuellement dans des situations sanitaires complexes.
Damien?
Oui, alors effectivement, il y a des personnes qui vont prendre en main l'organisation, la modifier, l'adapter. Et est-ce que vous avez parfois des personnes qui, au contraire, sont un petit peu dans le déni et ne veulent absolument rien changer à leurs vacances? Et qu'est-ce que vous leur dites dans ce cas-là?
Alors les gens qui ne veulent pas changer leurs vacances, c'est exceptionnel. La plupart acceptent de changer leurs vacances. C'est plutôt le contraire, on est obligé de les pousser. Mais en effet, pour ceux qui ne veulent pas les changer, on leur fournit absolument un dossier complet. Et ceci est valable pour tous les malades, mais surtout pour ceux-là. Ils doivent avoir un dossier complet avec leur situation clinique, les traitements en cours, les pathologies associées. Ça, on s'appuie beaucoup sur le médecin traitant qui les connaît évidemment beaucoup mieux que nous. Un lieu de chute et surtout des coordonnées du service pour qu'on soit joignable en cas de problème. Mais on donne au patient tout son dossier pour qu'il puisse agir.
On peut imaginer que les vacances soient l'occasion de suspendre les traitements temporairement?
Alors oui, parce que le traitement a deux situations. Soit vous êtes dans une situation de traitement adjuvant, c'est-à-dire que vous allez ajouter un traitement par une sécurité, une sorte d'ABS pour le patient pour qu'il ne puisse pas rechuter. Là, on peut toujours décaler d'une semaine ou deux. Si vraiment vous êtes dans une situation qui ne peut pas être décalée au maximum 3 semaines, on a en contact en France tous les services de cancérologie. On se connaît tous, c'est des protocoles communs. Et en s'y prenant 1 ou 2 mois à l'avance, ça ne peut pas être fait la veille pour le lendemain.
C'est ça. Ouais.
En s'y prenant 1 ou 2 mois à l'avance, on peut très bien prendre contact avec le collègue à la montagne, au ski, au bord de la mer.
Faire son traitement.
C'est complètement
dans l'hôpital du coin. On reste ensemble, docteur Thierry Bouillet. On va continuer de parler des solutions pour se changer les idées cet été, malgré le cancer.
Europe 1.
Et dans un instant, nous serons en ligne avec la directrice et fondatrice de l'association Rose, Céline Lisraou, qui propose des tas d'initiatives pour les patients touchés par le cancer, même s'ils restent chez eux.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et bien-être sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous évoquons aujourd'hui les vacances et la pause estivale lorsqu'on doit faire face au cancer. Pour en parler, nous sommes toujours en studio avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et avec notre invité du jour, le docteur Thierry Bouillet, médecin oncologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et Céline Lisraou vient de nous rejoindre également par ligne. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Après avoir été vous-même touchée par le cancer, vous avez fondé il y a 9 ans, le magazine Rose, un magazine féminin pour les femmes atteintes de cancer. Vous avez aussi depuis développé toutes sortes d'initiatives sur Internet. Et ce matin, par exemple, sur le site Rose Up, il y avait par exemple un atelier cuisine en ligne. À la fin de la semaine, il y aura un webinaire d'automassage, des conseils de kiné pour les douleurs post-opératoires. Vous proposiez aussi un atelier en ligne sur les questions de sexologie. C'est ouvert à qui, ces ateliers?
Alors, c'est ouvert à tout le monde. En fait, les ateliers, il y a deux manières d'y avoir accès. La première, sur notre page Facebook, où ils sont en direct. En général, ils sont à 11h et à 15h. Mm-hmm. Et évidemment, comme tout bon webinaire, il s'agit de poser des questions à nos intervenants. Donc, les femmes et les hommes, d'ailleurs, peuvent s'inscrire sur notre site rose-up.fr. Il y a un espace webinaire. Vous inscrivez, vous recevez un lien qui est gratuit. Et avec ce lien, vous pouvez aussi poser des questions, parce qu'il y a deux sortes de webinaires. Il y a des webinaires qui sont des ateliers, des webinaires vétérinaires qui sont des espaces ouverts où on peut interroger par exemple un oncologue ou un chirurgien sur la reconstruction. Donc si on veut poser des questions, il faut passer par l'espace de roseup.fr.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Et ça va durer tout l'été ?
Et ça va durer tout l'été et ça va continuer en fait pour expliquer un peu comment on a mis ces webinaires en ligne. En fait, à Rose, on est une association, Rose Up, on est une association de femmes malades de cancer. On a ce magazine donc il sort à 200 000 exemplaires et puis on a aussi deux maisons roses. Et au début du confinement, nos adhérentes qui vont dans les maisons roses de Paris et de Bordeaux étaient très très inquiètes parce qu'évidemment on a dû fermer comme tout le monde les maisons et se sont trouvés très isolés et nous ont dit mais finalement pourquoi vous ne faites pas en ligne des ateliers qu'on aime tant. Donc on a commencé, on a pris le taureau par les cornes, on n'avait jamais fait ça, mais on s'est dit bon, on va commencer à faire des solutions en ligne, donc des cours de cuisine, des ateliers de sexologie, des ateliers de chant, des ateliers de sophrologie, et finalement on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien et on s'est dit pourquoi ne pas l'ouvrir à toutes les femmes à partir du moment où c'est en ligne. Donc on a mis en place ça et on va les continuer à la rentrée parce qu'on est en train de créer une sorte de maison rose virtuelle finalement, qui est notre gros projet de l'année 2021, qui seront tous les espaces des maisons roses, toutes nos activités qui seront en ligne et donc ouvertes à toutes.
Damien Mascret.
Oui, vous parliez à l'instant des maisons roses, alors pas virtuelles, celles-là bien réelles. Elles sont ouvertes à qui ? Parce que j'avais la notion qu'effectivement c'était pour que les femmes puissent prendre soin d'elles, rester féminines et aussi avoir une bonne estime de soi, être en confiance malgré le cancer. Donc à qui c'est ouvert ?
Alors, elles sont ouvertes à nos adhérentes, aux adhérentes de notre association Rose Up, parce que nous sommes une association avant tout. Donc, il y en a une à Paris et une à Bordeaux, mais il n'y a pas que. Alors, la notion d'onco-esthétique et de prendre confiance en soi est importante, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Les maisons roses, on développe des solutions pour les malades de cancer, mais on va très loin dans l'accompagnement. Par exemple, on a toute une série d'ateliers qui sont vraiment dédiés aux femmes malades de cancer métastatique, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des femmes qui avaient des problématiques, notamment de douleurs, qui étaient beaucoup plus compliquées à gérer que les femmes qui, finalement, vivaient un cancer et puis en sortaient. On a beaucoup d'ateliers de sexologie. On a aussi toute une série qui s'appelle Rose Coaching Emploi, où, finalement, c'est un vrai programme où les femmes reviennent pendant ou après leur traitement pour retrouver un accès à l'emploi quand elles ont perdu leur emploi. Donc en fait, c'est un espace d'accompagnement à 360 degrés des femmes malades.
Les hommes sont les bienvenus ?
Alors non, les hommes, nous aimons beaucoup les hommes. Nous aimons même beaucoup trop les hommes parfois, on nous dira, mais pas dans la Maison Rose. En fait, on s'est rendu. Au début, c'était une vraie question qu'on s'est posée. Est-ce que les Maisons Roses seront ouvertes aux hommes ? Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes se sentaient beaucoup plus en sécurité, dans un environnement où elles étaient entre elles. Et on les comprend parce que finalement, ce qu'elles nous disent à travers les Maisons Roses, que vraiment elles plébiscitent, elles passent peu de temps finalement à l'hôpital, parce qu'elles n'ont pas envie de passer plus de temps qu'il ne le faut à l'hôpital, et ça on le comprend. L'hôpital c'est le lieu des traitements, c'est donc le lieu des choses pas très agréables. Excusez-moi docteur Bouillet, mais je pense que vous en êtes conscient aussi. C'est le lieu des choses pas agréables. Et puis souvent ces femmes, elles travaillent, ou elles ont arrêté de travailler, elles ont une vie de famille, elles ont des enfants, et toute cette douleur du cancer, elles ne veulent pas l'amener sur leur lieu privé. Et en fait, elles passent d'un lieu à l'autre, et elles n'ont pas d'endroit pour poser les valises. Et nous, on est un tiers-lieu où finalement elles arrivent, elles savent qu'elles ont une écoute bienveillante, elles savent qu'on est entre femmes qui ont eu des cancers, donc on sait de quoi on parle, on n'est jamais dans le jugement et à la fois elles peuvent se plaindre, elles ont le droit de se plaindre, on leur dit chez nous vous avez le droit de se plaindre, c'est pas des plaintes juste pour le plaisir de se plaindre, c'est dire j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis douloureuse, je n'y arrive pas, et nous on est le lieu où elles peuvent le dire et c'est très joli parce que quand elles rentrent dans les maisons roses, le premier truc qu'elles font toutes, elles enlèvent la perruque. Voilà. Et c'est le seul lieu, il y en a plein qui nous disent, c'est le seul lieu où finalement j'enlève ma perruque. Et ça en dit beaucoup sur leur confiance. Je pense que s'il y avait des hommes à l'intérieur de la Maison Rose, le rapport serait moins libéré avec l'image qu'on a. Donc on a décidé, non pas du tout parce qu'on n'aime pas les hommes, mais parce que je pense que les femmes se sentent plus en sécurité, elles se sentent mieux entre elles.
Damien Mascret ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un très beau livre de Nancy Huston qui s'appelle « Reflet dans un œil d'homme » et qui montre à quel point les femmes ont l'habitude, sans même s'en rendre compte parfois, de prêter attention à la façon dont elles se montrent finalement, ou dont les hommes vont les regarder. Et les hommes n'ont pas toujours conscience à quel point ils regardent effectivement les femmes, donc on peut comprendre ça. Je voulais quand même avoir l'avis du docteur Thierry Bouillet justement là-dessus, sur cette idée que pour vous, l'hôpital, quand on y travaille, c'est un lieu de vie comme un autre, mais effectivement, pour les femmes ou les personnes d'ailleurs qui y vont pour se faire soigner, c'est connoté différemment. Vous comprenez cette idée d'avoir sorti, d'avoir fait des espaces en dehors de l'hôpital ?
Alors moi, je trouve que le travail de Rose est exemplaire. C'est un endroit où on ne sait faire, mais ne pas subir. L'hôpital, c'est un peu subir. Et là, brusquement, ce qu'offre Rose, c'est faire. C'est faire pour soi en se découvrant dans le sens propre du terme. Je me découvre, je m'expose au regard de l'autre en toute sécurité, sans forcément de regard quelque part empreint de sexualité. On parlait tout à l'heure de travail sur la sexualité que peut faire Rose. Ce que fait Rose, c'est extraordinaire parce qu'il permet à ces femmes de se redécouvrir elles-mêmes.
Et c'est important d'avoir une bulle aussi en dehors de la maison ?
Oui, parce que le proche, il ne comprend pas toujours. Le proche, il n'entend pas toujours et la Maison Rose, elle entend.
Oui, Céline, vous vouliez réagir.
Oui, et puis merci beaucoup, docteur Bouillet. Et il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que ce qui est très difficile pour les malades et hommes et femmes, c'est pareil à l'hôpital, c'est que vous n'êtes plus maître de votre emploi du temps. Il y a beaucoup de malades, il y a pas assez de médecins. Et finalement, les emplois du temps, ils sont extrêmement contraints. Quand vous avez votre radiothérapie, par exemple, à 9h, c'est pas 9h05, c'est pas 9h10, c'est 9h. Bon. Et là, la première chose, quand les femmes arrivent, on leur demande, bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vous sentez de faire? On se met à leur service. Et elles reprennent la main sur plein de choses, et elles reprennent la main aussi sur leur emploi du temps. C'est-à-dire que nous, on s'adapte à ce dont elles ont besoin. On ne leur fait pas faire ce qu'on a envie de leur faire faire. Elles font ce qu'elles ont envie de faire. Et par ailleurs, on fait tout pour leur donner la capacité de le faire, pour les rendre à nouveau capacitaires. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est une manière, le fil rose, qu'il y a derrière tout ça, c'est de faire que les femmes reprennent la main sur leur propre vie. Et ça, c'est essentiel.
Merci beaucoup, Céline Lisraou. On redonne l'adresse de votre site internet qui est une mine de ressources pour les patientes atteintes de cancer. C'est rose-up.fr. Merci encore.
Europe.
Comment se faire du bien et se changer les idées malgré le cancer cet été? Nous continuons d'en parler avec le docteur Thierry Bouillet dans un instant. Votre émission Santé, c'est jusqu'à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours, vers 15h40, nous parlons de psychologie et des habitudes qui peuvent améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne des pistes, de la motivation pour améliorer notre mode de vie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un coach sportif. Bonjour Vincent Martin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur sportif des centres de remise en forme Néoness à Paris. Si on vous demande trois idées, trois conseils pour affiner notre silhouette cet été, qu'est-ce que vous nous dites ?
Alors le premier conseil déjà, ce sera de moduler et d'être intelligent sur ses activités cardio.
C'est-à-dire ?
Alors très souvent en été, il y a beaucoup de gens qui se mettent à avoir des activités cardiovasculaires un petit peu extrêmes et au-dessus de leurs moyens. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à courir ou qui vont se mettre à nager ou à faire beaucoup de vélo.
Donc à courir longtemps,
voilà,
nager longtemps.
Voilà, alors qu'ils ne sont pas du tout préparés, qu'ils n'ont pas eu une activité sportive conséquente pendant l'année. Et donc ils vont se mettre à courir dans le but d'être en forme et de perdre du poids.
D'accord.
Ils vont courir trop longtemps, trop vite. Dans ce cas-là, on n'élimine pas énormément de gras. On va stresser le corps. En stressant le corps dû à un effort trop violent et trop long, on va sécréter de la cortisol qui va encourager la prise de gras et la perte de muscle. Donc à l'inverse de tout ce qu'on veut faire quand on veut s'affiner.
Donc paradoxalement, pour maigrir, en fait, il ne faut pas faire trop longtemps de sport.
Voilà. Si jamais vous faites du sport pendant assez longtemps, c'est ce qu'on appelle de l'endurance fondamentale, il faut le faire à un rythme très lent. Là, on va taper dans les sucres et dans la graisse et là, on va perdre du gras.
Donc par exemple, de la course à pied, c'est à quel rythme ?
La course à pied, il faut que ce soit très facile. Faut pouvoir, si on vous pose une question, il faut pouvoir répondre.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est de l'endurance fondamentale. Si on a envie de gagner en endurance, il faut en faire à ce rythme-là. Si jamais on a une condition physique déjà assez intéressante, il faut faire des efforts courts en fractionnés.
D'accord.
Donc pas plus de 20-30 minutes.
Effort intense, on s'arrête.
On fait un effort intense, on récupère. Par exemple, une minute d'accélération, une minute de récupération pour apprendre au cœur à monter et à descendre. Et dans ce cas-là, on choque le métabolisme et on va perdre des calories pendant l'effort, mais également 12 heures après l'effort.
D'accord. Donc ça permet déjà d'affiner sa silhouette. C'est le premier conseil, du fractionné. Voilà. Le deuxième conseil ?
Alors, le deuxième conseil, souvent, quand on veut s'affiner, on se dit, il ne faut surtout pas que je fasse de renforcement musculaire et de musculation parce que je vais gonfler. Surtout pas. En fait, En faisant du renforcement musculaire, encore plus en faisant du renforcement musculaire en endurance musculaire, c'est-à-dire en faisant des exercices avec un minimum de 15-20 répétitions et avec des temps de récupération assez courts, on va dire 30 secondes entre chaque série, on va construire du muscle, on va à nouveau augmenter le métabolisme, donc on va perdre des calories pendant l'effort mais également après, et on va se muscler, donc augmenter notre métabolisme de base. En augmentant notre métabolisme de base, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de calories qu'on va perdre au repos toute la journée.
D'accord, donc il vaut mieux faire du gainage que des séries d'abdos.
Alors voilà, pour affiner la taille par exemple, il vaut mieux faire du gainage, ce qui va en fait nous permettre de resserrer les muscles autour de la taille, qui va avoir un effet corsé, plutôt que d'enchaîner des séries de crunch, c'est-à-dire où on lève les épaules et on redescend et on enchaîne comme ça, ce qui risque de faire gonfler le ventre, de pousser les organes vers l'avant.
Damien Mascret.
Oui, et puis les crunchs, on sait aussi que c'est très mauvais si on les fait mal, c'est-à-dire notamment si on n'a pas verrouillé
Alors
son
les
périnée.
Les crunchs, il faut expliquer pour ceux qui ne sont pas néophytes.
Effectivement, c'est quand on fait les abdos allongés sur le dos et qu'on rapproche comme ça, assez vigoureusement d'ailleurs, les genoux du thorax et on pousse sur le périnée. Donc le périnée masculin est plus robuste, mais le périnée féminin, effectivement, si vous faites des crunchs et que vous poussez sur votre périnée, vous abîmez votre périnée si vous ne l'avez pas contracté avant.
Alors, donc du fractionné, du gainage, et troisième conseil, Vincent Martin.
Eh bien, au niveau de l'alimentation, si on veut affiner sa taille, il faut faire très attention en été, encore plus quand on est en vacances, on a souvent une consommation de sucre qui est deux fois supérieure à la consommation qu'on a dans l'année.
Ah oui, les avec cocktails. Les glaces,
voilà, les glaces, les beignets. Alors on a son enfant qui va prendre une glace, bon allez, on l'accompagne. Et puis le soir, quand on part se promener au bord de la plage, on va consommer une crêpe. Et puis l'air de rien, comme ça, on a un taux de sucre qui est bien plus élevé que pendant l'année. Et surtout, très souvent aussi en été, on est un peu décalé. Notre sommeil est décalé, on se couche plus tard, on se réveille plus tard. Et on va consommer ce sucre tard dans la journée. Et on sait qu'à partir de 14-15 heures, le corps stocke pour la nuit. Donc s'il stocke du sucre, ça va créer du gras et tout ce qui s'ensuit.
Donc la glace, c'est plutôt le matin. C'est ce que vous dites.
Alors, la glace, alors, il ne faut pas se priver totalement non plus. On est quand même en vacances, mais il faut se limiter, on va dire, à un apport de sucre rapide par jour et pas plus, quoi.
Damien Mascret.
Oui, il faut se méfier beaucoup des boissons sucrées, parce que c'est vrai, même d'ailleurs de l'eau parfumée
de
parfois peut être... Alors l'alcool évidemment, chaque verre d'alcool va peser très lourd dans la balance, on parlait des cocktails, mais même si vous prenez un rhum, deux rhums, trois rhums le soir, ce que je ne conseille pas évidemment, eh bien c'est aussi une catastrophe au niveau calorique.
On récapitule donc les trois conseils, faire du fractionné, faire du gainage et gare au sucre pendant les vacances, il faut le consommer plutôt en première partie de journée. Voilà vos conseils, merci beaucoup Vincent Martin, on rappelle que vous êtes le directeur sportif des clubs de remise en forme Néoness.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec la chronique sexo au programme, Damien.
Les troubles de l'érection.
On se retrouve dans quelques minutes.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et c'est l'heure de la chronique sexo avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui, vous vouliez nous parler des problèmes d'érection. C'est inévitable chez l'homme ?
Ben oui, c'est inévitable. Beaucoup d'hommes alors restent malheureusement avec le modèle de l'érection qu'ils avaient lorsqu'ils étaient ados. C'est-à-dire, l'érection, c'est quelque chose d'automatique, c'est très ferme et c'est durable. Voilà, ça c'était le modèle idéal, si on peut dire.
Et ça, c'est un fantasme ?
C'est un fantasme, exactement. Alors, ça dure un certain temps, évidemment. Évidemment, mais ça induit surtout ce qu'on appelle la pression de performance. Il y a une idée reçue qui circule aussi bien chez les hommes que chez les femmes, selon laquelle l'érection serait finalement le thermomètre fidèle de l'excitation. Or, ça n'est pas le cas. On peut très bien avoir beaucoup d'excitation sans avoir d'érection. Et à l'inverse, on peut avoir d'ailleurs des érections tout à fait raisonnables, alors que l'excitation n'est pas très importante. Donc il faut abandonner cette idée, puis il faut surtout passer à une autre idée, celle qui est, par comparaison donc avec l'érection de l'ado, on va parler de l'érection de la maturité. C'est-à-dire que
c'est quel âge la maturité ?
Ça dépend des gens. Certains jamais, on va dire. Mais en tout cas, l'érection est moins spontanée, c'est sûr. Elle est moins rapide aussi à obtenir. Elle est plus fluctuante, ça je vais y revenir dans un instant. En gros, elle est moins prévisible. Mais ce qui est sûr, c'est que là où, effectivement, quand on est jeune, il suffit d'une certaine excitation mentale pour que l'érection se déclenche, quand on est, alors on va prendre les seniors pour vous donner un âge un peu plus précis, eh bien on sait qu'il faut très
souvent...
C'est pas
précis, c'est quoi? C'est 60, c'est 70?
Eh bien, ça dépend des seniors. On va avoir effectivement besoin de stimulation physique directe, effectivement, que le pénis soit stimulé pour que l'érection se déclenche. Encore une fois, ce sont des schémas, il peut y avoir des contre-exemples. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fonctionne avec cette idée, cette pression de performance, on va augmenter son anxiété. Et ça, on sait très bien que l'anxiété, plus elle augmente, et plus ça va freiner l'érection. Donc, ça n'est évidemment pas une bonne solution. C'est pour ça, c'est souvent à ce moment-là que les hommes, évidemment, vont consulter. Parce que, alors ceux qui, en tout cas, s'en inquiètent, pour les autres qui acceptent ce que j'appellerais l'autonomie du pénis, hein, c'est-à-dire que le pénis fait ce qu'il veut, voilà, il faut se faire une raison, qui acceptent cette idée que l'érection est fluctuante, ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, si vous avez l'excitation alors mentale ou la stimulation physique qui baisse en dessous d'un certain seuil, il se passe quelque chose de physiologique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de garrot interne dans le pénis quand il est en érection, mais quand on passe en dessous d'une certaine rigidité, eh bien ce garrot d'un seul coup peut être levé et l'homme peut perdre son érection. À l'inverse, hein, s'il y a une pression dans le pénis très importante au départ, que l'érection est très ferme, eh bien effectivement, même si l'excitation à un moment baisse un petit peu ou parce qu'on change de position ou des choses comme ça, ça n'atteindra pas ce seuil et on ne perdra pas son érection. Mais le plus souvent, effectivement, les hommes la perdent au moment de ces fluctuations.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de panne?
Alors, d'abord, il faut effectivement, si on accepte cette idée que l'érection fluctue, hein, c'est valable pour les deux partenaires. Et puis, il faut aussi s'interroger sur ce qu'on attend de l'acte sexuel, parce que si l'un ou l'autre attend effectivement un modèle performatif avec une érection puissante ou considère que l'important dans le rapport sexuel, c'est la pénétration, évidemment, eh bien là, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle les jeux de rôle, les jeux d'inversion. C'est-à-dire qu'on dit souvent à l'homme, et si c'est votre femme qui d'un seul coup vous disait « ça devient douloureux, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous voudriez absolument continuer ?»« Ah ben non, on passerait à autre chose. » Eh bien, faites la même chose. Détendez-vous de ce côté-là. N'oubliez pas que la sexualité, c'est un jeu d'équipe pour adultes. On travaille ensemble.
Et il y a aussi des médicaments qui favorise l'érection?
Alors effectivement, dans certains cas, on peut avoir recours aux médicaments, mais c'est surtout intéressant lorsque la pression de performance est particulièrement élevée, parce que effectivement, là aussi, on va lever cette anxiété dont je parlais et qui est un frein à l'érection, mais ça ne déclenche pas l'érection. Certains pensent que ces médicaments déclenchent l'érection, alors qu'en réalité, ils ne font simplement que retarder le retour à la flaccidité du pénis après l'érection. Donc, ils ne vont pas être initiateurs de l'érection, mais simplement retarder la perte, la détumescence, comme on appelle, la perte de l'érection. Alors, certains ont l'impression, quand ils testent ces médicaments, qu'effectivement, c'est initiateur et ça déclenche leur érection, mais ça n'est pas le cas, c'est simplement, c'est presque un effet placebo, c'est simplement parce qu'ils ne sont plus anxieux à l'idée de ne pas avoir l'érection, de ne pas satisfaire leur partenaire, bref, ce schéma performatif que je condamne un petit peu, vous l'avez compris, eh bien, simplement ça qui va être levé, c'est pour ça que l'érection va se déclencher plus facilement.
Merci Damien. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours avec vous de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Merci à vous Damien Mascret. On se retrouve demain à 15h et en attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Gougler.
100 rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.